Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire l'aventure de la conscience, chapitre 15, la conscience supramentale. Mais le chapitre, c'est, il y a différents chapitres dans un, le pouvoir supramental. Les spiritualistes rejettent le pouvoir comme une arme indigne du chercheur de vérité. Ce n'est pas le sentiment de Sri Aurobindo, au contraire, le concept de pouvoir Shakti est une clé de son yoga, parce que sans pouvoir, on ne peut rien transformer. Je chéris Dieu le feu, non Dieu le rêve, s'écrie Savitri. Un feu pour faire descendre l'éternité dans le temps et rendre la joie du corps aussi vivante que celle de l'âme. Savitri. Le yoga intégral ne peut pas rejeter les œuvres de la vie et se satisfaire seulement d'une expérience intérieure. Il doit aller au-dedans afin de changer le dehors. C'est cet aspect force ou pouvoir de la conscience que l'Inde a représenté sous le visage de la mère éternelle. Sans la conscience, il n'y a pas de force, et sans la force, il n'y a pas de création. Lui et elle, deux en un, inséparables. Tout ce vaste monde est seulement lui et elle. Savitri. Et toute l'évolution est l'histoire d'elle qui retrouve lui et qui veut incarner lui partout. Il ne s'agit pas de rejeter l'un pour l'autre. Sans lui, nous sommes prisonniers d'une force aveugle. Sans elle, prisonniers d'un vide ébloui. Mais d'unir l'un et l'autre dans un monde accompli, ils entrent dans une obscurité aveugle, ceux qui suivent l'ignorance. Et comme dans une obscurité plus grande, ceux qui cherchent seulement la conscience, dit Lisha Upanishad. Le supramental est un pouvoir avant toute chose et un pouvoir formidable. C'est le pouvoir direct de l'esprit dans la matière. Toute conscience est un pouvoir et plus on s'élève, plus le pouvoir est puissant. Plus on s'éloigne de la terre en même temps, par conséquent, lorsque nous voudrions appliquer notre pouvoir surmental, par exemple, aux affaires de ce monde, il faudra faire descendre de plan en plan et qu'il surmonte les déterminismes de tous les niveaux intermédiaires avant d'en arriver en bas, dans la matière. Au bout du parcours, il ne reste plus qu'un reflet surmental, alourdi, obscurci, qui doit se battre contre les déterminismes de plus en plus rebelles et épais. C'est ainsi que les spiritualistes n'ont jamais pu transformer la vie. Le supramental est la conscience-force suprême au cœur de la matière, sans intermédiaire. C'est le soleil dans l'obscurité dont parle le Véda, le lieu où le haut et le bas se rencontrent directement. Il peut donc tout changer. Rappelons les paroles de Mère. Le vrai changement de conscience est celui qui changera les conditions physiques du monde et en fera une création entièrement nouvelle. une loi ordinaire, dit Schrobindo, est simplement un équilibre établi par la nature. C'est une stabilisation de force. Mais ce n'est qu'un sillon dans lequel la nature a pris l'habitude de travailler pour obtenir certains résultats. Si vous changez de conscience, le sillon change aussi automatiquement et nécessairement. Ces changements de sillon ont jalonné toute notre histoire évolutive, à commencer par l'apparition de la vie dans la matière qui a modifié le sillon matériel, puis l'apparition du mental dans la vie qui a modifié le sillon vital et matériel. Le supramental est un troisième changement de sillon qui modifiera le mental, la vie et la matière. Et il a déjà commencé. L'expérience est en route. Fondamentalement, le processus supramental consiste à délivrer la conscience qui est contenue en chaque élément. Il ne bouleverse pas l'ordre de l'univers. Il ne fait aucune violence. Il applique seulement son pouvoir à la fusion de l'obscurité afin qu'elle rende sa propre lumière. Il a fendu l'obscurité comme on fend une peau de bête avant d'étendre notre terre sous son soleil, dit le Rig Veda, V85.1. Parce que la conscience divine est solaire, elle est partout. Le monde et chaque atome du monde sont divins. Le Seigneur de tous les univers est aussi l'inconscient dans les choses inconscientes dont parle le Rig Veda. La matière n'est pas une substance brute incapable de changement, sauf par la violence de nos mains ou de notre tête, qui n'ont guère accouché que de monstres. C'est une substance divine qui peut répondre au lieu de résister et se transformer au lieu de nous entraîner dans la vieille habitude de gravitation descendante et de désintégration. Mais c'est une divinité obscurcie, endormie, somnambule, dit Sri Aurobindo. Un soleil perdu, enfoui, dit le Rig Veda. L'inconscient est le sommeil du supraconscient. L'inconscience apparente de l'univers matériel contient en soi tout ce qui est éternellement révélé dans la supraconscient lumineux. Le supramental se servira donc de sa lumière pour éveiller la lumière correspondante, la même lumière dans la matière. La vérité d'en haut éveillera la vérité d'en bas. Car la loi est éternellement la même. Seul le semblable peut agir sur le semblable. Il fallait le pouvoir qui est tout en haut pour délivrer le pouvoir qui est tout en bas. La terre, entre guillemets, dans les Védas, est aussi le symbole de notre propre chair. C'est très important. Qu'est-ce que ce pouvoir? Toute concentration dégage une lumière subtile bien connue de ceux qui ont tant soit peu pratiqué les disciplines yogiques. La tapasya ou la discipline yogique, ce qui est le produit de la chaleur. Le pouvoir supramental est une chaleur de ce genre, mais infiniment plus intense dans les cellules du corps. C'est la chaleur dégagée par l'éveil de la conscience-force dans la matière. Tout se passe, dit la mère, comme si notre vie spirituelle était faite d'argent, tandis que la supramentale est faite d'or. Comme si toute vie spirituelle d'ici était une vibration d'argent, pas froide, mais simplement une lumière. Une lumière qui va jusqu'au sommet. Une lumière tout à fait pure, pure et intense. Mais il y en a dans l'autre, la supramentale, une richesse et une puissance, une chaleur qui fait toute la différence. Cette chaleur est la base de toutes les transmutations supramentales. En fait, la chaleur dégagée par les combustions et les réactions chimiques, sans parler de l'énergie incomparablement plus libérée par les fusions et les fissions nucléaires, n'est que la traduction physique d'un phénomène spirituel fondamental que les rishis védiques connaissaient très bien et qu'ils appelaient Agni, le feu spirituel dans la matière. Les autres flammes sont seulement des branches de tronc. Ô feu, ô Agni, ô divinité universelle, tu es le nœud ombilical de toutes les terres et de leurs habitants. Tous les hommes nés, tu les commandes et les soutiens comme un pilier. Tu es la tête du ciel et le nombril de la terre. Tu es le pouvoir qui se meut entre les deux mondes. Rig Veda 1.59. Ta splendeur au feu, qui est dans le ciel et dans la terre, dans les plantes et dans les eaux, par quoi tu as étendu vastement l'air du milieu, est un vivant océan de lumière qui voit avec la vision divine. Agni est entré dans la terre et dans le ciel comme s'ils étaient un. Rig Veda 3, 7, 4. Mais cet Agni suprême que Sri Aurobindo et Mère ont découvert dans la matière et les cellules du corps, c'est lui le levier de la transformation du corps et du changement physique du monde. Dès lors, au lieu d'agir sur la matière par l'entremise déformante et alourdissant de tous les déterminismes intermédiaires, mentaux et vitaux. C'est la matière elle-même éveillée à la conscience de sa force qui opère directement sa propre transmutation. Au lieu d'une évolution qui semble s'écarteler entre deux pôles, de conscience sans force, aboutissant à la béatitude du sage, ou de force sans conscience, aboutissant à la joie brute de l'atome, le supramental rétablit l'équilibre dans l'être total. La conscience la plus haute, dans la force la plus puissante, le feu de l'esprit dans la matière, ô flamme, au sang trésor, dit le Rig Veda 1.59. Il n'est peut-être pas inutile de souligner que Sri Aurobindo a fait sa découverte spirituelle en 1910, avant même d'avoir lu les Védas, et à une époque où la physique nucléaire en était encore aux conjonctures théoriques. Notre science est en avance sur notre conscience, d'où la source hasardeuse de notre destin. La similitude avec la puissance nucléaire est encore plus frappante si nous en venons à la description du pouvoir supramental tel qu'il apparaît aux voyants. Nous avions dit que plus on s'élève dans la conscience, plus la luminosité tend à devenir stable, continue, des étincelles intuitives aux éclairs stables. Du surmental, la lumière s'homogénise. On pourrait donc penser que la lumière supramentale est une sorte de totalité lumineuse parfaitement immobile, continue, sans interstice. Or, il est remarquable que le supramental soit d'une autre qualité lumineuse, toute différente des autres degrés de conscience. Il réunit à la fois l'immobilité complète et le mouvement le plus rapide qui soit. Ici aussi, expérimentalement, les deux pôles sont enjambés. Nous pouvons seulement citer le fait sans être capables de l'interpréter. Voici comment Mère décrit sa première expérience de la lumière supramentale. C'est absolument indescriptible, mais c'est cela qui est l'origine et le support de toute l'évolution terrestre. Et j'ai remarqué que dans cet état de conscience-là, le mouvement dépasse la force ou le pouvoir qui concentre les cellules pour en faire une forme individuelle. Ce mouvement, qui est une sorte de vibration éternelle, qui n'a ni commencement ni fin. C'est quelque chose qui est là de toute éternité pour toute éternité. Il n'y a pas de division de temps. C'est seulement quand c'est projeté sur un écran que cela commence à prendre la division du temps. Mais on ne peut pas dire une seconde, on ne peut pas dire un instant. C'est très difficile à expliquer. On ne peut même pas le percevoir qui n'est déjà plus quelque chose qui n'a pas de limite, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin et qui est un mouvement tellement total, tellement constant, qui est comme une perception. Cela donne le sentiment d'une immobilité parfaite. Le jour où nous saurons appliquer cette vibration, ce mouvement à notre matière, nous posséderons le secret pratique du passage de la matière brute à une matière plus subtile, que nous aurons le premier corps supramental et glorieux sur la terre. L'immobilité est la base du pouvoir supramental. Mais le silence est la condition de son fonctionnement parfait. La conscience supramentale n'obéit pas à des critères mentaux ou moraux pour décider de ses actes. Il n'y a plus de problème pour elle. Elle agit naturellement et spontanément. Comme si le dynamisme suprême ne pouvait sortir que de l'immobilité suprême. Cette spontanéité est la marque distinctive du supramental. Spontanéité de la vie, spontanéité de la connaissance, spontanéité du pouvoir. Pardon. Dans la vie ordinaire, nous cherchons à connaître ce qui est bien ou juste, et quand nous aurons croisé et trouvé, nous essayons tant bien que mal de matérialiser notre pensée. La conscience supramentale, elle ne cherche pas à connaître, elle ne cherche pas à savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Elle est parfaitement silencieuse. Immobile et vit spontanément chaque seconde du temps sans tension vers l'avenir. Mais à chaque seconde, dans ce silence de la conscience, la connaissance voulue tombe comme une goutte de lumière. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut voir. La pensée supramentale n'est pas un pont pour atteindre la lumière. C'est une flèche qui vient directement de la lumière. Là, chaque pensée, chaque sentiment est un acte. C'est un ferment évolutif formidable. Sri Aurobindo est mère pour le moment, mais étant bien entendu qu'aucune explication n'est satisfaisante, à moins que l'on ait vu soi-même, et que l'expérience ne commencera à être probante que du jour où elle deviendra une possibilité collective, nous préférons nous taire. Au reste, leur action échappait bien souvent à ceux-mêmes qui en bénéficiaient, pour la simple raison qu'on ne peut pas comprendre une chose que si l'on est sur le même plan, et que nous voyons seulement l'instant, pas le miracle, qui prépare ce simple regard. Cette seconde de lumière qui va mûrir pendant 20 ans ou 3 siècles sur nos obscurités avant de devenir naturelle. Ni vous, ni personne ne savait rien de ma vie, écrivait Sri Aurobindo à l'un de ses biographes. Rien ne s'est passé à la surface que les hommes puissent voir. Notre difficulté à parler de ce pouvoir vient de ce que nous avons une notion fausse de ce pouvoir. Quand nous parlons de pouvoir, nous nous attendons tout de suite à des choses fantastiques, mais ce n'est pas cela le vrai pouvoir, pas cela non plus le vrai fantastique de l'univers. Quand le supramental agit, ce ne sont pas des bouleversements mirifiques comme une poudre aux yeux, c'est une action tranquille comme éternelle, qui pousse le monde et chaque chose du monde vers sa propre perfection, à travers tous les masques d'imperfection. Le vrai miracle n'est pas de forcer les choses, mais de les précipiter secrètement et en cachette vers leur propre centre, afin que du fond d'elles-mêmes, elles reconnaissent ce visage avec un grand V qui est leur propre visage. un petit V. Il n'y a qu'un miracle, cette minute de reconnaissance quand plus rien n'est autre. L'individu est la clé du pouvoir supramental. L'être supramental occupe seulement une position transcendante et une position cosmique, mais aussi une position individuelle. Ce triple hiatus d'expérience est guéri qui divisait le moniste, le panthéiste et l'individualiste. Sa position transcendante n'abolit pas le monde et l'individu, pas plus que sa position cosmique ne le prive du transcendant et de l'individu. Et sa position individuelle ne le sépare pas non plus du transcendant et de l'univers. Il n'a pas jeté l'échelle pour parvenir au but. Il a parcouru tous les échelons évolutifs, du haut en bas. Il n'y a pas de trou nulle part, pas de joint manquant. Parce qu'il a gardé son individualité au lieu d'éclater dans un no man's land lumineux, il peut non seulement monter et descendre à grande échelle de l'existence et utiliser son individu comme un pont, comme un joint dans la matière entre le tout en haut et le tout en bas. Son travail sur la Terre est de mettre en contact directement la force suprême et l'individu, la conscience suprême et la matière. Joindre les deux bouts, dit la mère. C'est un précipiteur du réel sur la terre. C'est pourquoi nous avons l'espoir que les déterminismes aveugles qui commandent actuellement le monde, la mort, la souffrance, la guerre, pourront être changés par ce déterminisme suprême et faire place à une évolution nouvelle dans la lumière. C'est une révolution spirituelle que nous prévoyons, dont la révolution matérielle n'est qu'une ombre et un reflet. Sri Aurobindo entendait à nouveau la voix « Va à Pondichéry ». Quelques jours plus tard, il s'embarquait secrètement à bord du duplex, dépistant la police britannique, et il quittait l'Inde du Nord pour toujours. Je ne pouvais bouger que comme j'étais bougé par le Suprême. Les 40 années de sa vie avec mère vont être consacrées à transformer cette réalisation individuelle en une réalisation terrestre. Nous voulons faire descendre le supramental ici-bas comme une faculté nouvelle. Nous voulons créer une espèce où le supramental sera un état de conscience permanent, tout comme le mental maintenant est un état de conscience permanent parmi les hommes. Et pour que l'on ne se méprenne pas sur les intentions de Sri Aurobindo, il soulignait, et il l'a souligné plusieurs fois, « Loin de moi de vouloir propager quelque religion nouvelle, ou ancienne, pour l'avenir de l'humanité. Il ne s'agit pas de fonder une religion, mais d'ouvrir une voie qui est encore bloquée. Nous ne savons pas encore si l'aventure supramentale réussira. Les rishis védiques n'ont pas pu débloquer la voie. Ils n'ont pas pu ouvrir le grand passage pour tout le monde et transformer leur réalisation personnelle en une réalisation collective permanente. Il y avait une raison, reste à savoir si cette raison tient encore. La conscience supramentale, de l'aventure de la conscience, écrit par Satprem, il a intitulé son livre Sri Aurobindo, l'aventure de la conscience. Merci à Satprem d'avoir écrit ce livre il y a très longtemps. Merci à Sri Aurobindo, merci à Douce Mère, Ganga, Lakshmi.